Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver en direct jusqu'à 20h50 avec toute l'équipe, Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed et Mathieu.
Salut. Bonsoir,
Mohamed.
Au sommaire ce soir, la traque d'un tueur en série, Marine Le Pen face aux variants Zemmour et des adieux.
Là où il est, je suis sûr et certain qu'il sourit. Comme toujours.
Le Pen face au variant Z.
Des jeunes pro-Zemmour placardent régulièrement son visage.
Cette affiche Liberté.
Le CSA demande désormais aux médias un décompte de son temps de parole.
Liberté chérie.
Riposte de Éric Zemmour.
Je ne me tairai pas.
On a un ADN. On est sûr que c'est le même mec.
Il provoque une psychose dans la capitale.
Bonjour, le tueur en série de l'Est parisien a maintenant un visage. Une véritable chasse à l'homme est engagée.
Guy Georges est finalement arrêté le 26 mars 90.
La cour d'assises déclare Guy Georges coupable de 7 crimes et 3 agressions. Pas de surprise, mais un soulagement.
Autant de sujets que l'on évoque avec nos invités jusqu'à 20h, avant d'en revenir à l'origine du monde et de percer les secrets du drôle de monde de la couronne d'Angleterre.
Every single time I see a camera, it takes me straight back. Everything that I do reminds me of her.
Vous voulez voir ma mère?
We will be with our families again.
Son vagin.
The girl.
Je rêve d'être en vie.
Not many people have asked if I'm okay.
Non, je me sens pas bien.
Renoncer n'est pas une option.
Ton cœur ne bat plus.
British press for treating her badly.
Oui, je me souviens.
I've got an idea.
Votre cœur bat, Jean-Louis.
Et les déchirements d'une famille divisée.
Attendez, vous pouvez pas me laisser comme ça.
The better days will return.
Écoute mon cœur.
Action.
Laurent Lafitte, Hélène Vincent, Vincent McCain sont tous les trois à l'affiche d'une comédie hilarante. Ils dînent avec nous ce soir et avec le biographe officiel de la reine d'Angleterre. Autour d'un dîner préparé ce soir par Olivier Canal, le chef du restaurant La Meunière à Lyon. Un chef qui a remplacé la toque par une casquette. C'est une casquette de cuisine, cher Olivier.
Tout à fait, bonsoir.
Vous ne la portez que pour cuisiner?
Uniquement pour cuisiner.
C'est donc autorisé chez vous?
Complètement.
Pour faire des tartines lyonnaises,
oui.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, en fait, j'ai voulu prendre Guignol et le mettre dans la marmite et le moderniser un petit peu. Voilà.
Donc c'est une tartine lyonnaise moderne.
Voilà.
Qu'on dégustera après 20h. Merci beaucoup, Olivier. À tout à l'heure. Mais d'abord, Patrick, l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, est convoquée demain par les magistrats en vue d'une mise en examen.
Oui, c'est le résultat des plaintes déposées au début du premier confinement à la mi-mars 2020. Sur la centaine de plaintes rédigées par des particuliers, des médecins, des collectifs, 9 avaient été retenues par la CJR, la Cour de justice de la République, seule instance habilitée à juger des ministres pour l'exercice de leurs fonctions. Et donc, depuis un peu plus d'un an, depuis l'ouverture d'une information judiciaire en juillet 2020, 3 magistrats de la commission d'instruction de la CJR mènent l'enquête sur la gestion de crise d'Édouard Philippe, d'Agnès Buzyn et de son successeur Olivier Véran. Ce sont ces juges qui ont mobilisé 80 gendarmes en octobre dernier pour une perquisition surprise à 6 ou 7 heures du matin au domicile ou au bureau de ces 3 personnalités, mais aussi chez Sibeth Ndiaye et Jérôme Salomon.
Que leur reproche-t-on ?
De ne pas avoir bien géré la crise du Covid, mais à supposer que ce soit le cas, puisque mal gouverner n'est pas un délit, ni un crime, pas plus que d'éventuels mensonges. L'information judiciaire a été ouverte du chef d'abstention de combattre un sinistre. Alors, c'est un obscur article du Code pénal qui prévoit jusqu'à 2 ans de prison et vise, je cite, « quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer des mesures permettant de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes ». Là, on imagine un pompier les bras ballants face à un incendie, mais il paraît curieux qu'un incendie et une épidémie relèvent d'une même infraction pénale. Et puis, vous avez noté le caractère volontaire de l'abstention, c'est-à-dire que le suspect doit avoir agi en connaissance de cause. Il sait que ses décisions ou son absence de décision peuvent mettre en danger la population alors qu'il a les moyens d'agir. Ce n'est pas une mauvaise appréciation du danger, c'est une volonté délibérée de ne rien faire.
Est-ce que ça pourrait s'appliquer à Agnès Buzyn?
Sans doute, si elle est mise en examen. Peut-être les magistrats ont-ils trouvé dans la masse de documents saisis, mails, notes internes, documents classifiés du ministère de la Santé, la preuve de cette inaction coupable. Mais publiquement, ni les déclarations de la ministre expliquant qu'elle avait vu venir le danger dès le mois de janvier, ni la pénurie de masques, en partie imputable à ses prédécesseurs, ni le changement de doctrine sur ses masques, qui correspond aux recommandations de l'OMS, ni même les mensonges ne rentrent dans ce cadre pénal. Tous les juristes que j'ai consultés aujourd'hui sont d'accord là-dessus. Une chose encore, les analyses comparatives avec les autres pays, notamment le rapport Pittet, professeur Didier Pittet, montrent que la gestion de crise française se situe dans la moyenne et même une bonne moyenne, moins bien que l'Allemagne, mieux qu'en Angleterre, en Italie et en Espagne. Or, la France est le seul pays, peut-être même le seul au monde, où des ministres sont poursuivis pour la crise du Covid.
S'il y a procès, y a-t-il un risque ou une chance que ces ministres soient condamnés ?
Non, quasiment aucune. Je prends un risque, parce que la Cour de justice de la République, institution contestée dont la suppression a été promise par François Hollande, puis par Emmanuel Macron, est composée de 6 députés, 6 sénateurs et 3 magistrats, et qu'on ne voit pas une majorité de 12 parlementaires considérer que la mauvaise gestion d'un ministère, si elle est prouvée, justifie une sanction pénale. Il y a eu des condamnations par le passé, Charles Pasqua, François Léotard, pour des détournements de fonds, des abus de biens sociaux ou des financements de campagne, etc. Mais pas pour ce type de délit. En attendant, les convocations à venir d'Édouard Philippe et d'Olivier Véran, on aura un feuilleton judiciaire qui ne peut que tétaniser tous ceux qui aspirent à des responsabilités publiques et empoisonner la campagne présidentielle.
Bonsoir Charles Sapin.
Bonsoir.
Journaliste politique au Figaro, où vous suivez en particulier le Rassemblement national. Vous venez d'ailleurs de réaliser l'interview de Marine Le Pen dans laquelle elle présente son programme. Et vous publiez avec François-Xavier Bourmeau, Macron-Le Pen, le tango des fossoyeurs à l'archipel. À vos côtés, Damien Fleurot, rédacteur en chef adjoint du service politique de TF1 et LCI. Et vous publiez chez Plon, 2022, la flambée populiste, coécrit avec Mathieu Souquière. Marine Le Pen qui entre en campagne, mais aussi si Éric Zemmour, dans le temps d'antenne, va être décompté par les télés et la radio, on en parle dans un instant. Mais d'abord, cette convocation d'Agnès Buzyn demain devant les magistrats de la Cour de la justice de la République, c'est une nouvelle que redoutait le sommet de l'État et ça va vraiment perturber la campagne présidentielle, surtout si Emmanuel Macron est candidat.
Alors cette convocation, elle était attendue. D'ailleurs, Agnès Buzyn ne s'est pas rendue à la première convocation. Elle devrait se rendre demain à celle-là. Et elle était attendue, effectivement, redoutée, pas forcément au sommet de l'État, car on s'y prépare, Édouard Philippe notamment, Olivier Véran. Et ils le disent tous, on a intériorisé cette menace et depuis le début de cette crise sanitaire, parce qu'ils anticipaient ces plaintes. Il y en a beaucoup. C'est ça qui est nouveau dans cette crise sanitaire.
14 500 plaintes, hein, selon
et
le procureur
coup, derrière,
général.
Derrière, sans doute de un peu une machination politique, une instrumentalisation politique d'opposants à l'exécutif qui se servent de ce biais judiciaire pour mettre en difficulté le sommet de l'État.
Damien Fleurot, ça donne le ton d'une campagne présidentielle populiste parce que vous faites le lien entre le populisme sanitaire et le populisme tout court.
Écoutez, ce qui est sûr, c'est que cette enquête tombe...
Charles Sapin, pardon.
Oui.
Je vous ai permis. Charles Sapin.
Aucun problème. En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette enquête tombe au plus mauvais moment, en tout cas pour Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, on voyait le chef de l'État et son gouvernement qui vivaient une rentrée idyllique. Enfin, je veux dire, si la pandémie n'était pas sous contrôle, du moins elle était en décrue, on voyait une croissance et une reprise économique encore plus importante que prévu. Finalement, cela donnait un tableau d'un pays tenu, d'un capitaine à la barre qui a pris les bonnes décisions au bon moment. Le tableau dont on rêve quand on est chef de l'État 7 mois avant une présidentielle. Le problème, c'est que cette affaire charrie une toute autre image. Ça nous ramène des mois avant, au premier temps de cette épidémie, avec des temps de pantalonnade, ces imprécisions sur les masques, pour ne pas dire certains disent des mensonges. On se rappelle de la pénurie du test. Et si vous voulez, avec cette affaire, pourrait être exhumé le même climat de défiance par rapport au chef de l'État, au gouvernement, et avec cette défiance, servir de carburant aux mobilisations qu'on voit tous les samedis, contre le pass sanitaire, ce qui pourrait remettre en cause le dernier plan de réforme qu'Emmanuel Macron aimerait passer, et donc il perdrait son totem de président réformateur, ce qui est l'un de ses principaux avantages pour la campagne qui vient, et ce qui explique en partie pourquoi il est aussi haut dans les sondages de popularité.
Je ne suis pas sûr que... Est-ce que cette mise en examen, je laisse la question ouverte, peut faire changer la vision des Français sur la gestion de la crise sanitaire? Il y a une heure, Odoxa publie un nouveau sondage sur la gestion de crise avec Emmanuel Macron qui n'a jamais été aussi haut dans cette gestion, dans cette appréciation-là, puisque 48% des personnes interrogées le créditent d'une bonne gestion de la crise sanitaire. Voilà.
C'est juste...
ça vient à ce moment-là.
C'est juste parce que Emmanuel Macron a, si vous voulez, on le voit dans tous les sondages d'opinion d'ailleurs, il a une clientèle électorale extrêmement solide, presque une base granitique, des classes socio-professionnelles supérieures, et qui sont des personnes voilà, aisées, des retraités. Ces personnes-là ne vont pas changer d'avis pour une mise en examen, ils savent ce que ça veut dire. En revanche, ça peut radicaliser ses opposants. Et si jamais, on en parlera tout à l'heure, oui, si on a un second tour Marine Le Pen, Emmanuel Macron, il y a un risque que ça soit une présidentielle qui se joue négativement, c'est-à-dire rejet contre rejet. Et si le rejet d'Emmanuel Macron est plus fort que le rejet que suscite Marine Le Pen?
Damien Fleurot.
Oui, non, alors vous parliez du pont entre voilà, ce populisme sanitaire que l'on a vu ces derniers mois. C'est vrai qu'il est réel en France. Il y a une véritable mobilisation des opposants et depuis plusieurs mois. On le voit chaque samedi. On voit des partis politiques qui instrumentalisent aussi cette crise, cette judiciarisation aussi de cette crise sanitaire. C'est un fait qui n'est pas nouveau, mais qui est particulièrement fort, en tous les cas, actuellement. Et on le voit aujourd'hui avec cette nouvelle convocation. Mais sans doute qu'il y a eu une convocation il y a quelques semaines du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, devant cette même cour de justice de la République. C'est peut-être ça qui embête le plus le sommet de l'État, finalement, que ces convocations, celle d'Agnès Buzyn ou celle à venir d'Édouard Philippe et d'Olivier Véran.
Marine Le Pen qui lance sa campagne présidentielle ce week-end à Fréjus, avant de passer pendant quelques mois les manettes à son numéro 2, Jordan Bardella. Le slogan est déjà choisi, liberté, liberté chérie, une première affiche, un slogan inspiré du sixième couplet de la Marseillaise. Aucune référence au Rassemblement national sur l'affiche. On comprend bien qu'il faut faire oublier au maximum ce parti, Charles Sapin.
Inspiré aussi du slogan qu'on entend tous les samedis dans les manifs anti-vax et anti-pass, liberté.
Tout à fait, c'est un coup double en fait pour Marine Le Pen. C'est-à-dire que le choix de ce slogan avec cette image, et vous avez vu, c'est liberté au pluriel, donc il y a évidemment un clin d'œil par rapport à l'actualité, à ces défilés du samedi. C'est la seule personnalité politique au-dessus de 10% dans les sondages à avoir voté à l'Assemblée contre le pass sanitaire. Elle leur lance un clin d'œil en disant voilà, la véritable opposition à Emmanuel Macron sur ce point précis du pass sanitaire, c'est moi le vote utile dans les urnes. Et coup double, pourquoi? Puisque le choix de la liberté n'est pas anodin. C'est un peu un pied de nez à Emmanuel Macron et à sa campagne de 2017. Liberté, on pense à quoi? On pense à liberté d'enseignement, donc potentiellement à Samuel Paty. On pense à liberté d'expression, on pense à l'affaire Mila. En choisissant le mot de liberté, Marine Le Pen veut renvoyer Emmanuel Macron à ce qu'elle considère comme ses plus grands échecs. On s'en souvient, Emmanuel Macron, la liberté, c'était l'un des principaux piliers de sa campagne de 2017. Mmh. Et, mine de rien, par cette affiche, par ce slogan, elle essaye de rejouer ce duel avec Emmanuel Macron, duel après lequel elle court depuis 4 ans.
Vous en parlez d'ailleurs de ce duel de 2017, ce fameux débat du second tour, et vous citez notamment un message envoyé par Marine Le Pen à Florian Philippot au lendemain du débat du deuxième tour. « J'ai tout foutu en l'air, je suis vraiment tellement désolée. » Il y a la hantise d'une campagne qui finirait par dérailler comme en 2017.
Je pense qu'elle a, enfin, et d'ailleurs ses proches nous le racontent, elle a vraiment souffert de ce débat. Elle a senti finalement ce moment où la victoire lui échappait, non pas la victoire à l'Élysée, mais cette victoire aussi contre tous ces contenteurs, ceux qui disaient qu'elle était trop molle ou pas assez radicale, qu'elle avait tué le père, qu'elle ne pouvait pas réussir. Et finalement, elle a senti une décrédibilisation. Et tout le travail qu'elle a fait ces 4 dernières années, c'est essayer de dépasser ce souvenir funeste du débat. Et voilà.
Elle a dévoilé une partie de son programme ce matin dans l'entretien qu'elle vous a accordé pour le Figaro. Marine Le Pen exprime sa volonté de nationaliser les autoroutes pour faire baisser le prix des péages, de privatiser l'audiovisuel public afin de rendre immédiatement près de 3 milliards d'euros de redevances aux Français. Un commentaire sur ces thèmes, le choix de ces thèmes?
Oui, alors c'est vrai que la privatisation ou la nationalisation dans son programme des autoroutes, c'est un sujet qui est récurrent dans la vie politique et dans le débat à droite comme à gauche. Elle cherche sans doute, Marine Le Pen, à aller un peu brouiller les frontières. Et d'ailleurs, cette affiche « Liberté, liberté chérie » ne fait pas mention effectivement de son parti. Il y a une couleur, le vert, qui résonne aussi avec le thème de la protection de l'environnement. Ouais. Donc,
le marine, le bleu marine, c'est fini.
Exactement. Quoi. On est vraiment dans une volonté de dépasser des frontières, même si je pense qu'elle aura à cœur d'afficher une campagne bien à droite aussi, pour ne pas perdre complètement un électorat qui a peut-être été un peu déboussolé par une campagne sans doute trop sociale en 2017, sous l'impulsion de Florian Philippot. Vous
c'est en vrai parliez. Que les thèmes de l'immigration, elle ne les évoque pas directement ce matin, elle les laisse à d'autres, à Jordan Bardella.
Oui, un basculement démographique qui pourrait faire craindre que la France ne change de visage dans quelques années. Et c'est déjà en train d'arriver. Parce que moi,
donc
je me souviens.
Vous êtes dans la théorie du grand basculement.
Mais je n'aime pas ce mot de grand emplacement parce que je trouve qu'il n'est pas clair. Mmh. C'est un slogan très intellectuel, mais il pointe une réalité qui est juste. Qui est juste. Enfin, je veux dire, allez vous balader dans tous les quartiers où moi j'ai grandi, en Seine-Saint-Denis, à Bobigny, à Drancy.
Mais changement de visage, et vous parlez de couleur de peau, du coup.
Je parle de culture,
de religion.
Je parle de l'implantation sur notre sol d'une civilisation avec qui nous ne partageons rien.
C'est une façon aussi de ne pas perdre ceux qui sont sensibles au discours d'Éric Zemmour.
Oui, clairement, ce thème de l'immigration, et notamment au gré de cette actualité avec la crise en Afghanistan, et les possibles conséquences en matière de flux migratoires en Europe et notamment en France, au Rassemblement national, on a bien cerné cette actualité et on veut montrer que s'il y a bien une candidature radicale sur ce sujet-là, c'est bien celle de Marine Le Pen, et Jordan Bardella est en quelque sorte le porte-parole de la candidate.
Est-ce qu'Éric Zemmour est devenu l'obsession du Rassemblement national ?
Je ne crois pas.
Non.
C'est sûr que, de la même façon que sur tout l'échiquier politique, tout le monde en parle, en fait. C'est un peu le phénomène de la rentrée. C'est vrai qu'on a ce duel Macron-Le Pen qui est confirmé. Sondage après, c'est presque inédit, d'ailleurs. Enfin, depuis 2017, il n'y a pas un seul sondage qui donne une autre affiche au second tour. Et là, on voit cet Éric Zemmour arriver, sondé dès le départ à 7-8%. Donc, évidemment, ils en parlent, mais comme beaucoup sur l'échiquier politique. Ce que les conseillers de Marine Le Pen, en fait, soulignent, là où ils tempèrent un petit peu, c'est que déjà, Éric Zemmour n'est pas entré en campagne, ne s'est pas déclaré candidat. On va voir s'il y a déclaration de candidature et quel effet ça aura sur les sondages. Ensuite,
des équipes qui préparent sa candidature. Enfin, il ne faut pas faire semblant.
Il y a des équipes qui préparaient la candidature. Marion Maréchal aussi.
Parrainages.
Il y avait des équipes qui préparaient la candidature. Il y a plein de sujets, du coup, sur lesquels il ne s'est pas positionné. Les minima sociaux. La sécurité sociale. On se rappelle comment François Fillon avait dégringolé à ce moment-là. Et surtout, Marine Le Pen a une arme secrète. Non, cette arme secrète, c'est ce duel avec Emmanuel Macron. J'aimerais juste faire un parallèle avec ce qu'on a vu juste avant les européennes, 6 ou 7 mois avant les européennes. Ouais. Ce qui est frappant, c'est le parallélisme des situations avec aujourd'hui. Vous voyez, la gauche était explosée façon Pulse. Vous aviez une renaissance de la droite annoncée avec un candidat à 13-15%. Et vous aviez aussi un trublion qu'on annonçait pouvoir dépasser LR et gêner Marine Le Pen. Il s'appelait Nicolas Dupont-Aignan, il était sondé entre 7 et 8%. Mmh. Finalement, pendant la campagne, Marine Le Pen a fait de son duel avec... a essentialisé la campagne à son duel avec Macron. Souvenez-vous de ses affiches, voter contre Macron. Mmh. Macron, pareil, Emmanuel Macron, descend dans l'arène et dit, votez pour moi, je suis le seul rempart contre la lèpre populiste. Résultat, le candidat LR qui devait ressusciter a fait 8. Nicolas Dupont-Aignan, 3. Les deux seules formations politiques à arriver au-dessus de 20%, la formation de Marine Le Pen, la formation d'Emmanuel Macron.
C'est une remarque tout à fait juste. La seule différence, c'est qu'à la présidentielle, il y aura 2 fois ou 2 fois et demi plus d'électeurs qu'aux européennes. Sûrement.
C'est un pari, je ne sais pas.
En tout cas, la participation sera supérieure à celle
européenne. Oui, ça c'est vrai, vous avez raison.
Oui, avec une interrogation quand même sur le niveau de la participation qui peut déjouer certains sondages d'intention de vote, on le voit. Clairement, en tous les cas, la candidature d'Éric Zemmour, si elle se confirme dans les semaines qui viennent, peut bouleverser ce match. C'est vrai qu'il y a toujours ce phénomène de troisième homme, troisième femme éventuellement, dans une élection présidentielle. Et Éric Zemmour, qui est un fin observateur de la vie politique, du système médiatique aussi, s'est joué sur des leviers qui font écho, et c'est sans doute pour cette raison que ces livres se sont très bien vendus et que peut-être que demain, il pourrait grimper dans les sondages. Il est déjà très haut pour un non-candidat officiel.
Au risque de se dévoiler, ce qu'il ne fait qu'à peine apparemment dans son nouveau livre, puisque le Figaro ce soir, je vous ai lu il y a une heure, publie les bonnes feuilles du dernier livre d'Éric Zemmour, dans lequel il y a un certain nombre d'anecdotes
d'anecdotes, de phrases, de choses comme ça saisies au fil des années chez ses adversaires, mais pas de propositions, pas de mesures concrètes. Et sur la question de l'immigration, la question clé sera de savoir, et ça vaut aussi pour Marine Le Pen, est-ce qu'il va jusqu'à proposer la déportation d'une partie de la population sur des critères ethniques et religieux, ce qu'il a laissé entendre, ce qui en fait qu'il n'était pas un candidat comme les autres, s'il se déclare candidat, ce qu'il a laissé entendre dans de multiples chroniques et éditoriaux. C'est une question clé sur laquelle Marine Le Pen ne le suivra pas, et son entourage me l'a confirmé récemment, mais voilà, c'est absolument essentiel de savoir ce qu'il peut proposer s'il est candidat sur les questions de l'immigration.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tous les cas, il est dans une position très confortable.
Très ambigu.
Ambigu, mais confortable, parce qu'il observe, il commente, et sur les sujets, ses sujets de prédilection, notamment l'immigration, oui, il peut avancer certaines propositions, certaines recommandations, donner des leçons, et finalement, en n'étant jamais en responsabilité, il a le beau rôle.
Et pourtant, le CSA le considère comme un acteur du débat politique national. C'est le cas ou c'est pas le cas? Le CSA a raison de demander à ce qu'on décompte son temps de parole?
C'est vrai qu'il y a, en tous les cas, une parole qui est de plus en plus politique. Il y a une organisation autour de lui. Alors, est-ce que pour autant ça en fait un candidat? Ça, peut-être qu'on le saura dans les jours qui viennent. Mais ça peut permettre, finalement, soit d'accélérer un calendrier pour lui, ou en tous les cas de clarifier une situation aujourd'hui dans le système médiatique.
On a vu la couverture qu'il a dévoilée aujourd'hui de son très prochain livre. Ça rappelle des couvertures, notamment la couverture d'un des livres de Donald Trump. C'est juste les goûts et les couleurs ou il y a une autre démarche?
C'est le même populisme, en quelque sorte, avec des, bien sûr des nuances, mais c'est sûr qu'il joue sur des ressorts populistes, Éric Zemmour, le drapeau français très présent, là où d'ailleurs Marine Le Pen peut-être s'en extrait un peu, puisque ce symbole national n'est pas présent à ce stade de la campagne sur les affiches de Marine Le Pen, mais clairement il y a les mêmes ressorts entre Donald Trump et Éric Zemmour. Oui.
Et ce qui est intéressant dans cette couverture, c'est, vous voyez, la France n'a pas dit son dernier mot. C'est comme une preuve de cette conscience en fait d'Éric Zemmour qui n'a pas de programme. Et c'est vrai que les derniers discours qu'on lui connaît, je pense notamment au discours de la convention de la droite qu'il avait donné en présence de Marion Maréchal, en fait, vous écoutez le discours, c'est minuit moins le quart. Enfin, c'est-à-dire il agressait presque les personnes devant lui en expliquant, mais de toute façon vous êtes là sur une chaise, mais bande de fous, il est déjà trop tard, la subversion va nous arriver. Et finalement, le plus gros handicap d'Éric Zemmour dans sa déclaration de candidature, et s'il se déclare, ça va être, enfin, on connaît ses constats exactement crépusculaires, mais quelle proposition?
En tout cas, le populisme sera l'acteur incontournable de cette élection présidentielle. C'est ce qu'on comprend en vous lisant Damien Fleurot avec Mathieu Souquière, 2022, La flambée populiste. Et puis Macron-Le Pen, le tango des fossoyeurs. C'est signé Charles Sapin et François-Xavier Bourmeau. Merci à tous les deux. Vous restez avec nous. On continue à évoquer l'actualité. C'est la story de Mohamed Bouabsi.
Non, c'est bien. Bonsoir à tous.
Bonsoir Mohamed. On revient sur l'annonce faite ce matin par le ministre de la Santé, Olivier Véran. La contraception sera bientôt gratuite pour toutes les femmes de moins de 25 ans. Et c'est une étape importante dans la longue histoire de la contraception en France.
Malfaiteur, public assassin, fossoyeur de la France, Olivier Véran a de la chance. Il ne subit pas ce que Lucien Neuwirth a vécu à la fin des années 60. En décembre 1967, Neuwirth abroge la loi de 1920 qui réprime la provocation à l'avortement et donne son nom à une loi qui autorise la pilule sur prescription médicale. En 1967, cette loi provoque des débats enragés à l'Assemblée nationale et les Français sont divisés.
Pourquoi la débauche ? On entraîne la débauche, pourquoi? Parce qu'il y a des hippies, tout ça.
Il est certain que maintenant, avec la mentalité actuelle des gamines de 16 ans, la pilule est absolument une chose merveilleuse.
L'ensemble des jeunes filles, des jeunes gens, ils sont beaucoup plus précoces que de notre temps.
Je trouve quand même que si les parents étaient un peu plus intelligents, ils essaieraient malgré tout de raisonner leurs enfants.
Moi, je vois mes grands-parents sont plus compréhensifs que mes parents.
En 1974, quelques mois avant la légalisation de l'avortement, Simone Veil porte le projet de démocratiser l'accès à la pilule. Elle est désormais remboursée par la Sécurité sociale. Les classes populaires ont désormais accès à la contraception. Le planning familial peut délivrer gratuitement et anonymement des contraceptifs aux mineurs. Simone Veil laisse sa colère froide éclater à l'Assemblée nationale le 29 juin 1974. Ce qu'il faut, c'est faire entrer la contraception dans le droit commun, la dédramatiser, en faire un acte médical comme un autre. Mais la petite révolution de l'histoire de la contraception en France a lieu le 1er juin 1999. Le gouvernement Jospin bouleverse le quotidien des femmes. La pilule du lendemain est désormais en vente dans toutes les pharmacies, sans obligation d'ordonnance. Cette loi vient répondre à une situation de détresse que connaissent plus de 10 000 adolescentes françaises chaque année, une grossesse non désirée.
Nous avions l'angoisse de faire cesser ce nombre très important d'avortements qui entraînait des conséquences parfois mortelles et qui était un massacre pour les petites filles. Parce qu'il s'agissait des jeunes filles, des filles très jeunes, qui se trouvaient, par les circonstances, faire l'amour sans avoir rien préparé, sans parfois en avoir parlé à leur maman ou même avec l'homme avec lequel elles avaient fait l'amour. Donc elles étaient complètement paniquées et pour nous, c'était impossible de considérer l'avortement comme un moyen contraceptif, comme un moyen comme les autres.
En 2015, la contraception devient gratuite pour les mineurs de plus de 15 ans. En 2020, elle le devient pour toutes les mineures à partir de 12 ans. À partir du 1er janvier 2022, dans quelques mois donc, toutes les femmes pourront bénéficier désormais de la contraception gratuite jusqu'à 25 ans. Une mesure qui coûtera 21 millions d'euros à l'État français.
Damien Fleurot, quand il y a une flambée populiste, est-ce qu'il faut craindre un recul du droit des femmes? Alors qu'on l'a vu aux États-Unis, la Cour suprême a validé cette loi texane qui va interdire l'avortement, même en cas de viol au-delà de 6 semaines de grossesse.
Oui, c'est vrai que c'est une possibilité, c'est un risque. En tous les cas, ce qu'il se passe aux États-Unis peut être inquiétant. C'est vrai qu'il y a forcément, quand un dirigeant populiste arrive au pouvoir, eh bien, souvent des reculs en matière de liberté, une façon d'incarner le pouvoir, un autoritarisme qui se déploie, et avec des conséquences économiques, sociales et sociétales.
Même si Marine Le Pen, clairement, ne reviendra pas sur le droit à l'avortement. Ça, c'est...
Non.
De ce point de vue-là, c'est très clair.
Ah, c'est très clair. D'ailleurs, ça a fait l'objet de débats internes au Front National à l'époque. On s'en souvient durant la campagne de 2017 avec sa nièce, Marion Maréchal. Non, Marine Le Pen n'est pas du tout dans cette optique-là. Et d'ailleurs, elle a laissé la liberté de vote lors des débats sur l'extension de la procréation médicalement assistée, la PMA, la liberté de vote à ses députés. Pour preuve que ce n'est pas du tout un enjeu politique pour elle.
Voilà. Plus que cette décision aussi, il faut savoir, le planning familial, on a pu échanger cet après-midi avec des membres du planning familial, nous explique qu'il faut démocratiser l'accès à l'information aussi, que les pilules sont disponibles pour toutes. Et aujourd'hui, c'est possible d'aller dans la pharmacie et de demander des pilules gratuitement. C'est important de le rappeler pour toutes ces jeunes femmes.
De moins de 25 ans, oui. C'est à partir du 1er
janvier 2022.
2022.
Et merci. Gratuit pour toutes les mineures aujourd'hui.
Merci beaucoup Mohamed Bouafsi. C'est l'une des affaires les plus médiatisées en France, une des plus longues aussi, une des plus longues enquêtes jamais menées par la CRIM, la traque du tueur de l'Est parisien Guy Georges, qui a violé et assassiné 7 jeunes femmes en 6 ans dans les années 90.
Oui, c'est la première fois qu'on emploie la notion de tueur en série en France, SK1, Serial Killer 1. C'est d'ailleurs le nom de code que les enquêteurs vont longtemps utiliser pour nommer cette affaire. Avant que les médias s'en emparent, Guy Georges devient alors le tueur de l'Est parisien.
Surnommé le tueur en série de l'Est parisien, il provoque une psychose dans la capitale. Le scénario est toujours le même. Le soir, l'homme suit des jeunes femmes jusqu'à leur domicile. Il les viole puis les égorge.
À cette époque, toutes les jeunes femmes ont eu peur de croiser la route du fameux tueur. Pour cause, 7 femmes tuées en 7 ans, sans compter les viols, les agressions, et presque autant d'imbroglio dans l'enquête. Son premier assassinat, par exemple, Pascal Escarfail, magnifique jeune femme de 19 ans, il la tue chez elle alors qu'il a eu une permission de sortie de prison, car il est à ce moment-là en semi-liberté conditionnelle. Il est censé rentrer chaque soir en prison. Mais ça n'est qu'après avoir soulagé cette pulsion meurtrière qu'il va tranquillement retourner dans sa cellule de camp pour se mettre à l'abri. Le juge d'application des peines sera, lui, très heureux de le voir regagner sa cellule. Il va même le féliciter, voyant là un homme sur la bonne voie. Et ça, ce n'est que la première ineptie qui va faire de ce fait divers l'un des plus traumatisants que la France ait connu. Il y a eu aussi les mauvaises pistes de l'enquête. Pendant longtemps, les enquêteurs vont s'attacher à un portrait robot qui ne correspondait pas du tout à celui de Guy Georges. Autre fausse piste, une empreinte de pied.
Le tueur laissera l'empreinte de son pied sur du sang, un pied dit égyptien, au deuxième orteil plus long que le pouce.
Voilà, le fameux pied égyptien. Ils vont donc systématiquement demander aux hommes soupçonnés de se déchausser pour vérifier la taille de l'orteil. Les policiers comprendront bien plus tard que cette trace de pied égyptien ne s'expliquait que par le fait que Guy Georges avait dérapé dans le sang. Mais le plus grave loupé, c'est sans doute le manque de communication des enquêteurs. Ils détiennent enfin l'ADN du tueur, ce qui leur a d'ailleurs permis de comprendre qu'il était l'auteur de plusieurs assassinats de jeunes femmes. Et un jour de septembre 1995, ils arrêtent un certain Guy Georges. Ils l'interrogent et face à eux, c'est un homme zen, serein, qui affirme qu'il ne connaît pas du tout les femmes dont on lui parle. Si zen que les enquêteurs ne vont pas penser à confronter son ADN, certains que le médecin d'Acrim l'a déjà fait. Ils vont donc relâcher Guy Georges sans savoir qu'ils remettent le tueur en série dans la nature, sans savoir non plus que le docteur n'a jamais confronté son ADN. Guy Georges va donc tuer de nouveau deux jeunes femmes en 1997.
Mais les policiers sont prudents, les violences sexuelles avec meurtre dans la capitale ne sont pas chose courante jusque-là.
Le 23 septembre 1997, on est appelé, on se rend sur place immédiatement. Quand je rentre, ben je suis figée. Je dis, c'est pas vrai, il a recommencé, quoi.
Ah, je dis, ah bon ? Comment vous êtes sûre que ça peut être le même type ?
Que sur chaque scène de crime, il y a des indices qui ont été relevés.
On a un ADN, on est sûr que c'est le même mec.
On était à la recherche d'un tueur en série qui tuait des jeunes femmes et on en avait déjà malheureusement trop. Il faut faire très vite.
Je voulais faire une co-enquête. Ma fille, on ne pouvait pas l'éviter. Mais qu'il y en ait d'autres, non.
Voilà quelques images du documentaire co-signé Mona Hacha chez Patricia Touranchot, journaliste spécialiste des affaires criminelles, chargée de l'affaire Guy Georges pour Libération à l'époque. Patricia Touranchot qui est ce soir notre invitée. Bonsoir Patricia Touranchot, bienvenue sur le plateau de C'est à vous. Les femmes et l'assassin, c'est le titre de ce documentaire disponible partout dans le monde depuis ce matin sur Netflix. Un documentaire assorti d'une édition augmentée de Guy Georges, La Traque. Si vous racontez à nouveau cette affaire que vous connaissez par cœur, c'est pas du tout pour assouvir une quelconque passion morbide assez commune, ce qu'on appelle la passion pour les true crime, pour les vrais faits divers. L'affaire Guy Georges, c'est important parce que ça dit quelque chose de notre société, ça raconte la France des années 90.
Voilà, c'est les années 90, c'est quand même la France de l'insouciance. Pour les femmes, c'est la libération des femmes. Moi, je me souviens, on est toutes aux terrasses de café, on est toutes à faire des java et tout. Sauf que c'est aussi, il y a aussi l'apparition en plein Paris d'un type qui tue des jeunes femmes. Et aussi, dans les années 90, cette affaire, elle va démontrer que à la brigade criminelle, dans le sein des seins de la police judiciaire parisienne au 36 quai des Orfèvres, c'est l'archaïsme le plus total. Ils sont encore en train de taper les procès-verbaux sur des machines Olympia avec du papier carbone.
Et vous dites surtout que c'est un ramassis de mauvais à la police scientifique. C'est le placard dans lequel on met tous les policiers dont on ne veut plus ailleurs.
Au service de l'identité judiciaire, c'est-à-dire ceux qui font les prélèvements, au début des années 90, effectivement, c'est là où on met les alcooliques, les mauvais, les bras cassés. Et il faut attendre 95 pour que la police judiciaire installe à la tête de ce service scientifique Richard Marlet, un grand commissaire qui va tout remettre au pas et moderniser ce service. Mais il faudra quelques temps. Et pendant ce temps-là, Guy Georges est là.
À l'époque, surtout, la France ne détient pas de fichier ADN, alors que ses voisins européens, la Grande-Bretagne par exemple, l'a mis en place depuis plusieurs années déjà. Ça va être déterminant. On savait prélever l'ADN, mais on n'avait pas de fichier centralisé.
Voilà. Donc, les biologistes étaient obligés de faire des comparaisons au cas par cas en prélevant l'ADN de suspects qui arrivaient dans le service ou qui étaient repérés. Et donc, pas de fichier. Et la France était vent debout contre ce fichier. Tout le monde se disait, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, quoi, si c'était pendant la guerre,
exactement.
Les nazis.
La France était très divisée contre la mise au point de ce fichier ADN. Exemple, Yvan Levaille sur un plateau de télévision à l'époque.
Moi, je voudrais dire que ceux qui se battent pour mon temps ne se battent pas que pour mon temps. Il y a des tas de gens qui ne... c'est un dangereux précédent que celui qui consiste à établir un fichier ADN de la population.
Perverse pyramide.
Votre ADN, c'est votre histoire, c'est votre caractère.
C'est complètement d'accord.
Ce fichier-là, je n'en veux pas.
Complètement d'accord. C'est déjà fait. Je suis complètement d'accord.
On entend Maître Gilbert Collard hein, dans le public qui dit « je suis complètement d'accord ». Ça a ralenti vraiment la mise en place de ce fichier
Ces débats-là, bien sûr, bien sûr. Il faudra attendre quand même l'échec de l'affaire Guy Georges, puisqu'on a, on a quand même l'ADN SK1, pour créer ce fichier d'empreintes génétiques en France en juin 1998, et encore très restreint à l'époque. Parce que si un tel fichier avait existé, Guy Georges, il a déjà été arrêté plein de fois pour des agressions, pour des vol, il avait balafré une femme avec un couteau, il avait violé une femme à Nancy. Si son ADN à l'époque avait été prélevé,
combien de vies auraient été sauvées?
Ben, quasiment toutes.
Mais là, ils ont l'ADN, et c'est ce que j'ai raconté. Comment se fait-il que quand ils ont Guy Georges sous la main, ils ont prélevé l'ADN, mais ils ne le confrontent pas?
En fait, ils le confrontent à une petite tache sur un prospectus dans la voiture d'une victime. Ok, et ça matche pas parce que ça doit être n'importe qui est monté dans cette voiture. Et personne, effectivement, ne va penser à comparer l'ADN de ce Guy Georges qui est extrait de prison comme des tas d'autres délinquants sexuels ou criminels sexuels. Et personne ne pense à comparer à l'ADN masculin, enfin inconnu masculin SK1. Et c'est hallucinant. Donc ils vont le comprendre à la fin.
Dans cette affaire, la police scientifique n'était pas aidée, n'a pas aidé, les médias non plus. Un journaliste en particulier qui a voulu faire un coup et ça aurait pu être fatal à l'aboutissement de l'enquête, à l'arrestation de Guy Georges.
Ouais, c'est-à-dire que le 26 mars 1998, quand Guy Georges est identifié par son ADN, il y a 5000 policiers qui ont sa fiche et qui le recherchent dans Paris. Donc ça bruise de partout, ça fuite de partout, plein de journalistes sont au courant. Et la patronne de la brigade criminelle, Martine Monteil, supplie les journalistes qui sont au courant de se taire, tant qu'il n'est pas arrêté. Le directeur de la PJ, pareil. Et puis, il y a un fait diversier d'une grande radio qui va faire le scoop pour le scoop. Et le matin, nan, 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 le tueur de l'Est parisien est identifié. À partir de ce moment-là, si Guy Georges, il l'a dit après aux policiers, s'il avait entendu ça, parce que c'est repris partout...
Mais il n'écoutait pas la radio.
Il aurait été prévenu. Il dormait. Donc c'est une chance, parce que sinon Guy Georges a dit à la CRIM si j'avais entendu ça, j'aurais volé une moto et je me serais enfui en Espagne et vous ne m'auriez plus jamais retrouvé.
Pierre.
Guy Georges arrêté fait un certain nombre d'aveux, son procès se tient en 2001, vous y étiez, un procès long, pénible, d'autant que le tueur en série nie une partie des faits. Il faudra, comment dire, un lapsus gestuel pour le confondre. Guy Georges, poussé dans ses retranchements, je vous vois sourire, par l'avocat d'une des victimes et qui le raconte très bien.
Quand on vous tend les photos, c'est vrai, vous les prenez avec la main droite. Mais quand vous les faites défiler devant vous, vous les faites défiler comme ça, avec la main gauche, il me regarde et il dit « Non, mais c'est parce que c'est normal ». Les photos, le micro, mais... Et il lève la main comme ça. Mais quoi ? Dit Georges. Quand vous frappez, c'est avec la main droite ? Il répond oui.
Maître Solange Doumi couvre la première brèche, vraiment ?
Ah oui, vraiment. C'est le basculement du procès. On est au cinquième jour du procès. Tout le monde en a marre. Plus personne ne supporte un Guy Georges dénégateur. Les familles sont remontées contre lui. Et Solange Doumi, depuis le début du procès, essaye de le faire craquer. Et elle s'engouffre dans toutes les failles. Déjà, elle a failli le faire craquer sur la taille d'un Opinel, où Guy Georges, finalement, dit non, c'est pas ça. Le plus grand Opinel, c'est numéro 18. Ah oui, comment vous le savez ? Et là... ça fait basculer le procès, puis, parce que la défense de Guy Georges devient intenable et que ses avocats, Frédéric Ponce et Alex Ursulet, ne peuvent plus continuer comme ça avec lui.
Dans ce documentaire, il y a aussi un secret qui est révélé, c'est le secret de Anne Gauthier, la mère d'Hélène Frinking, une des victimes de Guy Georges, et elle vous le révèle.
Il a demandé pardon aux victimes.
Et donc, comme je n'étais pas là, je tourne ça dans ma tête, le pardon et tout ça. Et là, il y a quelque chose. Non, on peut pas, je ne peux pas lui pardonner. Ce n'est pas à moi qu'il a fait du mal, c'est à Hélène. Et donc, je vais lui écrire. Je vais lui écrire. Eh bien, il m'a répondu.
Ça a duré combien de temps, cette correspondance ?
Elle a duré un an. Moi, j'ai 7 lettres de Guy Georges, 20 pages, qui sont que Anne Gauthier m'a léguées. Et elle a mis beaucoup de temps à me révéler ça et à me les donner, parce qu'elle avait peur, à travers cette correspondance avec l'assassin de sa fille, de choquer les autres familles. Et en même temps, là, puisqu'elle a 82 ans aujourd'hui, son anniversaire, et qu'elle prépare ses bagages de la vie. Mmh. Elle voulait transmettre, hein, voilà, pour que peut-être des psys analysent ses lettres. Et en fait, on découvre quand même dans ses conversations un Guy Georges assez intelligent et assez résigné aussi sur le sort qui peut lui être fait. Où il dit « Anne, je sais très bien qu'on ne me laissera jamais sortir de prison. »
D'ailleurs, il avait la possibilité de demander une libération conditionnelle. Il ne l'a pas fait, conscient de son état incurable.
Moi, je pense que c'est ça. Bon, je ne peux pas jurer qu'il ne le fera pas d'ici quelques temps, hein, parce que... Mais pour l'instant, moi, je pense qu'il s'est résigné à rester là-bas jusqu'à la nuit des temps, quoi.
Et mais, oui, pour conclure, Patricia Touranchot.
Non, je voulais remercier, parce que ce film-là, moi, je voulais remercier toute l'équipe, quoi, qui a bossé avec nous, avec une mention spéciale pour le monteur Maxime Bonnet, qui est extraordinaire, un petit génie. Et nos deux productrices, quoi, Angélique Sansonetti et Elodie Paul-Ackermann.
Les femmes et l'assassin, c'est disponible depuis ce matin partout dans le monde, puisqu'il y a une version anglaise.
190 pays.
190 pays.
209 Netflix. Millions de téléspectateurs potentiels, ils nous ont dit. Bon, on ne les aura pas. Hein,
alors, respect, Patricia Touranchot. Et votre livre en édition
Gagner
augmentée.
Gagner l'Eurovision, quoi.
C'est ça.
Oui. Enfin, votre livre en édition augmentée s'appelle Guy Georges, la traque. Merci beaucoup d'être venu ce soir.
Merci.
C'est tout de suite le 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Merci, bonsoir Mathieu.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir Mathieu. Bonsoir.
On ouvre ce 5 sur 5 avec l'hommage de la nation à Jean-Paul Belmondo.
Bien sûr, le président de la République a voulu un hommage solennel et populaire à la fois. 1000 personnes à l'intérieur, des écrans géants à l'extérieur, des Invalides, des Français rassemblés pour saluer la mémoire du comédien, parisien ou non, venu rendre un dernier hommage. Écoutez-les répondre à Iban Raïs et Anaïs Recouli.
C'est une gueule, et puis c'est un corps aussi. J'étais prof d'éducation physique, et j'ai eu l'occasion de le voir s'entraîner.
On a pris la route ce matin à 5 heures. Hein. Oui. Moi, c'est mon idole depuis toujours, donc j'étais obligée d'être là. Si j'ai encore du mal à en parler au passé, je ne sais même pas si un jour je pourrais en parler au passé. Vraiment, c'est Bébel, il sera éternel pour nous.
On allait davantage le voir, lui, que pour l'histoire du film. Jean-Paul Belmondo avait revêtu ce costume dans le film Le Guignolo, la fameuse scène où il s'accroche à un hélicoptère parce qu'il était pourchassé par deux hors-bord. Donc j'attends d'ailleurs mon hélicoptère. Voilà, et dès qu'il arrive, je vais m'envoler également comme Bébel.
Des anonymes, vous le voyez, mais aussi des étoiles, les plus grandes stars françaises, les amis de Belmondo.
À ses débuts, on disait il est laid, il ne fait aucune carrière. Et puis finalement, c'est ça qui était la modernité et aussi son talent, évidemment. Les deux combinés, il a fait ce qu'il a fait, quoi. Et il a pu faire des films très, très pointus, jusqu'à des films très populaires.
Il est non seulement totalement intemporel, mais en plus, je pense pas connaître quelqu'un qui fasse à ce point l'unanimité.
Est-ce qu'il y a une punchline ou un film qui ressort, là ?
Toc, toc, l'esquinade de couvert, toi, moi, 20h.
Ça a été le plus bel ambassadeur de la boxe française. Il a suivi aussi bien l'ancienne que la nouvelle génération.
Est-ce qu'il était crédible dans ses mouvements, dans ses films, en tant que boxeur ? Est-ce que l'œil de l'athlète peut nous éclairer ?
Il avait l'attitude du boxeur, mais il avait même la musculature du boxeur.
C'était le même homme à la ville et dans les films. Et ça, il y en a peu comme ça. C'est cette grandeur, ce charme.
C'est vrai qu'il arrivait à rassembler, à réunir tout le monde, Jean-Paul. Il n'y avait pas de distinction. Et c'est une très belle image de la France.
On parle de lui au présent. De toute façon, il sera là.
Ah oui, oui, il est encore là pour une bonne centaine d'années, oui, minimum. Hein. Oui, oui, c'est sûr. Oui, oui.
Dans la cour des Invalides, devant le cercueil de Jean-Paul Belmondo, honneur et musique militaire, revue des troupes, il est 16h30 quand Emmanuel Macron prend la parole pour son éloge funèbre.
Parisien au sang italien, amoureux de la langue grand siècle autant que de l'argot parisien,
tendre, turbulent, bourgeois boxeur, athlète incroyable, crivelé de fêlures, Jean-Paul Belmondo raconte nos contradictions, nos failles. On aime sa solitude, son goût du risque, l'élégance de sa joie, son style.
Le cercueil de Jean-Paul Belmondo exposé. Chacun peut venir s'y recueillir. Les portes des Invalides se sont ouvertes au public il y a quelques minutes. Dans l'intimité familiale, les funérailles se tiendront demain matin à l'église Saint-Germain-des-Prés. Un dernier hommage, une archive oubliée ces derniers jours, mais tellement classe, je voulais vous la passer. 2013, Quentin Tarantino.
Belmondo. It's not just the name of a movie star. It's not just the name of a man. It's a verb. It's a verb that represents vitality, charisma, a force of will. It represents super coolness.
Super coolness. Mais sur cette archive, vous avez évidemment reconnu Jean Rochefort, Jean-Pierre Marielle, que Jean-Paul Belmondo a rejoint. C'était le dernier survivant de cette bande du conservatoire des années 50. Et puis pour terminer, sur un sourire, dans la collection Le Saviez-vous, Jean-Paul Belmondo avait prêté ses traits au héros du tout premier film d'animation érotique japonais. On le reconnaît quand même, hein, ouais. Les Mille et Une Nuits, 1969, Osamu Tezuka. Promis, Pierre, je vous rends le DVD demain.
Une page politique dans le 5 sur 5 ce soir.
Vous avez parlé de la droite et de l'extrême droite au début de l'émission, des populismes avec vos invités. Cap à gauche à présent, les gauches. Hier, LCI accueillait le deuxième débat de la primaire écologiste. Avant d'entrer dans le détail et à l'heure où l'on questionne l'utilité de ces primaires, je voulais vous montrer un premier indicateur sur l'attractivité de ce débat. Vous le voyez en termes d'audience, c'était mitigé. LCI qui dépasse CNews, qui n'est pas habituel à cette heure-là, mais qui n'atteint pas BFM TV. Alors on s'est dit que c'est peut-être parce que...
On est en train d'entendre LCI ce soir.
Ouais. C'était un beau succès, un très beau succès d'audience. C'était une moyenne là, que vous affichez, mais LCI a été, à un moment donné, dans la soirée, première chaîne d'information. Donc, voilà.
N'accusez pas LCI, mais la primaire des écologistes, en réalité. Je me suis dit que peut-être que vous ne les connaissiez pas assez bien. Il y a des écolocentristes, des radicaux, des écolo-féministes. On a même entendu l'expression gauchiste de droite pour l'un d'entre eux. Alors, pour vous aider, parce que c'est notre rôle aussi...
Ça se complique.
Eh bien, on vous les présente.
C'est une fille, un garçon, il est vieux, non, non, non. Des lunettes, pas de barbe, le crâne rond. Yeah. Trouve le personnage mystère et gagne la partie.
Vous êtes joueur autour de la table, alors je vais passer sur Yannick Jadot, c'est le favori des sondages, mais c'est aussi le plus connu. Mais si je vous dis, je suis une femme issue du Parti Socialiste, j'étais au gouvernement Hérault en 2012, vous me dites...
Damien Fleurot.
Oui, moi je ne vais pas jouer parce que...
J'ai entendu la bonne réponse, Delphine Bateau. Je vais enchaîner. Un homme, ancien cadre dans les imprimantes, j'ai piqué la ville de Grenoble au PS.
Piolle.
Bon, Éric Piolle.
Une bonne réponse à ma gauche. Et puis enfin, si je vous dis je suis une femme, je me présente comme écolo-radicale féministe, mais aussi j'ai salué la mémoire de Jean-Pierre Belmondo.
Sandrine Rousseau.
Oui, ça va rester un petit peu malheureusement. Et donc par élimination, il reste Jean-Marc Governatori, co-président du parti Cap Écologie. Ils sont cinq et ils ont des propositions.
Dès mon élection, je lancerai un grand débat national public de 6 mois. Sur l'éducation.
On crée un revenu d'existence pour que personne aujourd'hui descende en dessous de 850 euros.
Au 1er janvier 2025, il n'y aura plus un seul élevage de cages.
Interdire les pesticides néonicotinoïdes, le glyphosate.
Et introduire le référendum d'initiative citoyenne dans notre constitution.
Un autre mot de politique ce soir avec... Politique. Benoît Hamon se retire de la vie politique. Bon, j'entends les sarcasmes, la vie politique l'avait déjà quitté en 2017, nanana, nanana. Bon, au-delà des bons mots, Benoît Hamon s'explique dans cette interview au Monde aujourd'hui. Il dit sa déception des débats politiques, son sentiment de devoir chercher d'autres leviers d'action. Il sera directeur général d'une ONG, l'ONG Singa, active dans l'accueil et l'insertion des personnes migrantes. Charles Sapin, Damien Fleurot, est-ce que ce que dit Benoît Hamon, la politique ne serait plus le bon terrain pour faire avancer des idées ?
Oui, alors je pense qu'il n'est pas encore complètement certain de sa décision parce qu'il a été élu au Conseil régional d'Île-de-France et pour l'instant, il réserve sa réponse pour savoir s'il démissionne également de cette fonction. Donc peut-être qu'il hésite encore un peu, mais c'est vrai que peut-être que l'engagement via cette organisation pour les migrants, en faveur des migrants, c'est peut-être un peu plus concret que oui. Président Nike.
Il faut dire aussi qu'il a été très actif ces deux dernières années pour tenter d'imposer une candidature unique à gauche. Il s'est beaucoup démené, il a essayé de nouer le dialogue entre les uns et les autres. Et là,
avec le succès qu'on connaît.
Et voilà, exactement. Donc évidemment, ça incite à tourner la page, comme il dit.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le paysage politique est un peu compliqué. Chaque année, il y a le CEVIPOF qui fait une étude très détaillée sur la sensibilité des Français. Et en fait, j'ai fait une erreur d'analyse. J'ai vu que 24% des Français étaient encore de sensibilité, se disaient encore d'une sensibilité de gauche. Je pensais que c'était en fait la première fois depuis le début de la Ve République. En fait, c'est la première fois depuis le XXe siècle. Ça n'a jamais été aussi bas.
Jamais été aussi bas. Un événement dans l'industrie des réseaux sociaux.
TikTok dépasse YouTube aux États-Unis. 26 heures de visionnage par semaine pour l'application chinoise, 24 heures pour la filiale de Google. L'écart est déjà plus important au Royaume-Uni. Alors vous allez me dire, on s'en moque. Mais je me suis auto-investi d'une mission didactique ce soir, mes amis.
C'est
parce
bien.
Qu'après le 5 sur 5, figurez-vous que je vous regarde. Je reste devant, c'est à vous.
TikTok, j'ai vraiment fait une incartade en croyant, en me disant « Hey, je suis quand même dans le coup, attends, voilà, et je comprends pas, et c'est pas ma génération. »
Ça y est, vous êtes passé dans notre camp.
Ouais, ça y est.
Voilà. Bienvenue.
Pas de panique, chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous allez comprendre ce qui se passe dans la poche de vos ados. TikTok est une application de vidéos courtes, calibrée pour être virale, partagée. On y danse, pas mal. On y fait des blagues aussi, petite sélection.
The water. No!
It's fake.
Alors quand on apprend qu'aux États-Unis, maison mère des GAFA, Google, est battue par une entreprise chinoise, ça nous rappelle quelque chose.
We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. We may be doing some other things. There are a couple of options, but a lot of things are happening. So we'll see what happens. But we are looking at a lot of alternatives with respect to TikTok.
Il est là l'enjeu. On n'est pas que dans des vidéos rigolotes. Je sais qu'on va tous réviser les chorégraphies ce soir qui s'échangent entre ados. Mais on est dans une vraie guerre économique et culturelle. Est-ce qu'il faut se méfier de TikTok? Audrey Payas a posé la question au spécialiste de la Chine, Antoine Bondaz.
Très important, c'est évidemment de prendre des précautions et d'avoir conscience de certains risques. L'évolution du système législatif en Chine, notamment la loi sur la sécurité nationale en 2017 ou des lois plus récentes sur la protection des données, peuvent évidemment poser des risques pour les entreprises étrangères, mais aussi pour les utilisateurs en Europe ou aux États-Unis. Ce qu'il faut, c'est évidemment avoir conscience de ces risques, mais de ne pas surréagir, c'est-à-dire de ne pas interdire tout simplement une entreprise, tout simplement parce qu'elle serait chinoise.
TikTok, on a parlé de Huawei hein, il y a quelques années. Ces entreprises servent-elles justement le soft power, l'expansion culturelle chinoise ?
La volonté de la Chine d'influencer à l'étranger le débat public aujourd'hui ne passe pas par ces entreprises. Elle passe avant tout par la communication officielle, c'est-à-dire les diplomates. Elle passe parfois par l'influence à travers certaines publications, que ce soit certains films, mais aujourd'hui pas véritablement par ces grandes entreprises.
On peut dormir tranquille, donc, et je compte sur vous pour vous mettre aux chorégraphies.
Oh non, c'est pas tout de suite.
Non, pas tout de suite.
Non, merci Mathieu, merci beaucoup Damien Fleurot. Je rappelle, 2022, la flambée populiste, Charles Sapin, Macron, Le Pen, le tango des fossoyeurs, Netflix, les femmes et les assassins. Dans un instant, nos invités, Vincent Maïken, Laurent Lafitte, Hélène Vincent. Quelque chose à dire, Bertrand?
J'ai oublié McFly et Carlito, ce soir je vous présente les deux nouvelles stars de YouTube. Elles s'appellent Didier Raoult et Joël Giraud.
D'accord, okay. À tout de suite pour les actualités de Bertrand, vu la story média de Mohamed, l'œil de Pierre et le dîner de C'est à vous. On vous attend.